Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme il descendait de la montagne, ainsi commence la péricope de ce jour. Après avoir enseigné les disciples et la foule, pris de la hauteur, posé les fondements de la vie évangélique, maintenant Jésus plonge dans notre réalité humaine. Et rappelons-nous la parole de saint Paul, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Descend de la montagne, Jésus s'abaisse. Jésus se laisse approcher par l'humanité blessée. Jésus manifeste ainsi une nouveauté, la proximité du règne de Dieu à travers les guérisons. La miséricorde divine se manifeste à travers la vie et les gestes de Jésus, au-delà des frontières, au-delà des catégories du pur et de l'impur. C'est la théophanie de la miséricorde. Dans l'évangile de ce jour, donc, il est question de deux guérisons. La guérison d'un lépreux et du serviteur d'un centurion. Ces deux catégories de personnes étaient exclues de la communauté des fils d'Israël, considérées comme impures. Et les deux miracles n'ont rien d'un prodige, mais une restauration de la vie dans toute sa plénitude. Ce qui est souligné ici, c'est l'audace et l'humilité de la foi du lépreux qui s'en remet à la miséricorde de Dieu à travers le Christ. Le lépreux surgit, s'approche de Jésus, se prosterne. Audace, car le lépreux devait rester à l'écart. Seigneur, si tu le veux. Foi aussi en ce vouloir du Christ qui est de donner la vie en abondance. Le lépreux ne demande pas d'être guéri, mais d'être purifié. À l'audace de la foi du lépreux, Jésus répond, « Je le veux, le touche. » L'amour et la miséricorde divine tiennent lieu de bain de purification. Il est souligné aussi l'humilité du Christ, car il renvoie le lépreux au prêtre pour constater sa guérison et le réintégrer dans la communauté. Nous avons donc une théophanie. Se manifeste ici la bienveillance de Dieu, l'inauguration du règne de Dieu qui communique la puissance de vie divine et qui s'ouvre à chacun, quel qu'il soit. Dans ce contact entre la main de Jésus et le lépreux est abattue toute la barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son contraire. Certainement pas pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. L'évangile rapportant le deuxième miracle nous indique que Jésus entre dans Capharnaüm, qui veut dire lieu de la consolation. Entre en scène un centurion, un officier romain, un païen, un envahisseur qui ne pouvait entrer en contact physique avec les Juifs. Il supplie Jésus de guérir son serviteur. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, souffrant terriblement. Qu'est-ce qui va faire l'admiration de Jésus quant à la foi du centurion ? Le centurion n'a fait que supplier Jésus de guérir son serviteur. Ni le lépreux, ni le centurion n'ont récité de credo. La foi admirable selon Jésus n'est donc pas l'appartenance à une religion, ni l'adhésion à une doctrine. Il n'est pas non plus dit que ce centurion aurait une profondeur de prière extraordinaire, ni une pratique religieuse quelconque, ni qu'il ait reçu le baptême ou la circoncision. De plus, qu'un centurion se mette au service d'un esclave, cela bouleverse les mentalités. Il n'était pas correct pour un vainqueur de supplier un vaincu en le reconnaissant comme son seigneur. Il n'était pas correct pour un juif d'aller chez un païen, ni pour le Messie d'Israël de visiter la maison d'un idolâtre. Et pourtant, le centurion a entendu le besoin de vivre du jeune serviteur ou esclave, comme un ordre impérieux pour lui, comme une vocation personnelle qui lui dit « Va, toi, et agis ». Cet impératif s'affranchit de toute autre hiérarchie. Jésus répond au centurion contre toute attente, qui s'apprête lui-même à aller guérir son esclave. Survient alors l'étonnante remarque du centurion, dont les mots nous sont si familiers dans la liturgie. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Le centurion ne veut pas forcer les barrières, mais c'est sa foi en la parole de Jésus qui va franchir cette barrière et guérir le serviteur. Il reconnaît lui-même, de par son rôle d'officier, l'autorité de la parole. car moi je ne suis qu'un subalterne, je donne des ordres à mes subordonnés et il les exécute. Il se reconnaît humble et lui-même au service d'une autorité supérieure. Pour le Christ, c'est son père, et pour le centurion, César ou un de ses généraux. Mais si le centurion, homme normal, a une parole opérative, je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Il a aussi la conviction profonde dans son cœur que la parole du Christ est encore plus opérative, qu'elle peut aussi agir quand plus rien ne va. Le centurion connaissait certainement l'activité de Jésus et que sa parole avait une autorité. Rappelons-nous en amont, les foules étaient frappées de son enseignement. Il enseignait un homme qui a autorité, non comme les scribes. Il reconnaît donc dans la parole du Christ cette puissance capable de communiquer la vie qui franchit toutes les barrières institutionnelles. Ce centurion parle de hiérarchie, d'autorité, d'obéissance. C'est normal pour un officier. Sauf que précisément, ici, c'est l'inverse. Car la hiérarchie suivie par le centurion est complètement troublée. Le centurion se met totalement au service de son serviteur. C'est totalement contraire aux mœurs de la société romaine. Ensuite, le centurion reconnaît Jésus comme son Seigneur. En même temps, il n'hésite pas à lui donner un ordre. Dis une parole. Et c'est bel et bien un impératif. Un fait cela, que Jésus va d'ailleurs faire. C'est la charité qui semble être le moteur de la démarche du centurion. Cette compassion étonnante du centurion vis-à-vis d'un esclave. La charité est l'amie de la foi. Même dans les cas où la relation avec Dieu n'est pas explicite, le Seigneur lui-même enseigne que tout acte d'amour envers le prochain est en quelque sorte un reflet de la charité divine. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le pape Léon dans son exhortation d'Ilexis. Comme il descendait de la montagne, rappelons-nous, nous sommes aussi invités avec Jésus à descendre de la montagne, à sortir de nos églises citadelles pour vivre et rencontrer les hommes et les femmes de notre temps. La liturgie, si belle soit-elle, n'est pas le seul critère de la communauté ecclésiale, de l'Église. Que de débats stériles, surtout en France, à propos de la liturgie, qui au lieu d'unir, divise. Jésus exerce son ministère d'abord en Galilée, carrefour des païens, en Matthieu 4, dans un lieu exposé à la croyance, carrefour d'échanges avec des lieux non-juifs, en contact avec des personnes souffrantes et blessées, considérés comme impurs. Nous sommes invités à sortir de nos zones de confort spirituel et élargir l'espace de ta tente. Les religions et le christianisme n'y échappent pas, créent des systèmes de doctrine, des barrières qui divisent, qui peuvent étouffer les personnes et contrecarrer l'élan de la foi agissante. L'Église, en ce temps qui se termine de la prière pour l'œcuménisme, rappelons-nous que l'Église devrait être à l'image de la divine Trinité. Quand je dis Église, ce n'est pas uniquement l'institution, mais l'Église, corps du Christ. Donc l'Église devrait être à l'image de la divine Trinité, de l'agapé divine, débordement de vie divine. La foi n'est pas d'abord adhésion à un système de doctrine, mais confiance en une parole qui dynamise et rassemble. Entrer dans cette expérience fondamentale du Christ lors du baptême, à recevoir cette parole céleste, « Tu es mon fils ou ma fille bien-aimée ». C'est l'expérience de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la vie en Christ qui est première et qui est coulée dans les chaînes de pensée pour donner naissance aux règles de la foi. La vie en Christ est seule à pouvoir débloquer la rigidité du dogme pour qu'il puisse s'ouvrir à un surplus de vie, de croissance et d'ampleur, disait le père Matthieu Mesquine. Le prophète Malachi nous invite à être vrais, ajustés dans notre culte et notre relation à Dieu, dans notre vie personnelle et communautaire. Et saint Paul nous rappelle constamment, à travers ses épîtres, que devenir semblable au Christ, c'est de devenir des êtres d'amour agapé, des êtres de miséricorde et de compassion, d'êtres vainqueurs du mal par le bien. Nos églises ont vocation à être des Capharnaüm, des lieux de la consolation, des lieux de débordement de vie, des lieux ouverts. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser veut dire plonger, c'est-à-dire plonger le monde, le cosmos, dans l'amour trinitaire. Rappelons-nous la parole de Jean, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.